Nous dans quelques secondes, votre journal de 19h, 19h15, le conseil de lecture de Stéphane Place. 19h20, le club des idées après les inondations dramatiques en Europe, mais également sur l'est de la France. Comment les villes repensent leur territoire pour éviter ces crues ? 39-21, votre parole bien sûr contre standard. Mais d'abord toute l'info avec Sophie Tussereau. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Merci d'écouter Europe 1, bon début de soirée. Il est 19h.
Scandalisé que des moyens technologiques soient utilisés contre des ressortissants français, qui plus est le président de la République, un certain nombre de personnalités politiques, c'est extrêmement grave.
Le monde politique secoué en France, Emmanuel Macron et 14 ministres ciblés par l'affaire Pegasus, l'espionnage à grande échelle par le Maroc de personnalités à travers le monde via un logiciel israélien.
Le soulagement pour la famille de Steve Mayakanisson, le jeune homme décédé à Nantes lors de la fête de la musique il y a 2 ans maintenant. Le commissaire en charge des opérations ce soir-là a été mis en examen pour homicide involontaire.
18 000 cas de contamination en 24 heures en France. La France qui est balayée par la quatrième vague, c'est la ruée dans les centres de vaccination. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales. Dans ce journal, le département le plus durement touché actuellement par l'épidémie.
Auront pas lieu à 3 jours du début des Jeux Olympiques à Tokyo. Les organisateurs ne savent pas sur quel pied danser et pensent encore qu'une annulation est possible. La tendance météo, Marlène Duré.
Beau et chaud dès les premières heures du jour, sauf au sud de la Garonne. On sera envahi de nuages bas le matin, petit risque d'averse en montagne et des températures comprises entre 26 et 35 degrés au plus chaud de la journée.
Le détail à la fin de cette édition.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est bien sûr l'information de la soirée. L'affaire Pegasus fait l'effet d'une bombe à l'Élysée.
Le journal Le Monde révèle qu'Emmanuel Macron a lui-même été ciblé en 2019, Nicolas Feldman.
Oui, et puisque l'un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron figure bien sur la liste des cibles visées par ce logiciel espion à la demande du Maroc. Alors le téléphone du président a-t-il été écouté, surveillé? Pour le moment, impossible à dire. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron n'est pas la seule personnalité visiblement à intéresser le Maroc. Parmi les autres téléphones potentiellement espionnés, on trouve l'ex-premier ministre Édouard Philippe. Figurent aussi 14 ministres alors en 2019 en exercice. Au-delà du gouvernement, des responsables de partis, des députés comme celui de la France Insoumise Adrien Quatennens. 2 personnages clés de l'entourage d'Emmanuel Macron apparaissent aussi dans cette liste. Le conseiller du président sur les questions africaines Franck Paris, ainsi qu'Alexandre Benalla, à l'époque en charge de la sécurité d'Emmanuel Macron.
Nicolas Feldman.
Bonsoir Laurent Richard.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur de Forbidden Stories à l'origine de ces révélations. Est-ce que cela signifie qu'Emmanuel Macron a été lui-même espionné ?
Non, seule une analyse technique au final pourra le prouver. On a mené ce type d'analyse sur un grand nombre de téléphones. À chaque fois qu'on a pu le faire, les résultats étaient quand même très concluants. On a trouvé des traces d'infection et des traces de présence du logiciel Pegasus dans les téléphones qu'on a pu expertiser. Évidemment, on n'a pas pu faire la même analyse technique sur le téléphone d'Emmanuel Macron. Bien c'est sûr. À l'Élysée de le faire. Ce que ça veut dire juste, c'est que le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron a été entré par le Maroc dans ce système-là qui vise ensuite à espionner les personnes. Donc seul l'Élysée maintenant peut nous dire ce qui s'est réellement passé.
14 ministres sont également ciblés par l'affaire. Au profit de qui alors ?
Au profit d'un gouvernement marocain qui utilise le logiciel Pegasus. Et on le sait depuis déjà quelques temps. Et il y a 1 an de ça, on révélait que le journaliste marocain avait été aussi ciblé au moyen de ce même logiciel-là. Ouais. Et le Maroc faisant partie d'autres États qui utilisent cette même technique pour espionner ses propres populations ou pour espionner des dissidents qui ont pu aller à l'extérieur ou des personnalités étrangères.
Laurent Richard, d'habitude, ce sont des grandes puissances qui écoutent d'autres grandes puissances. Quel serait l'intérêt du Maroc ?
Alors, je pense que de l'intérêt, il y en a, en fait. Il y a toujours sans doute de l'intérêt à connaître les secrets d'un chef d'État, de l'intérêt à connaître quelle va être la position de la France sur des sujets géopolitiques sensibles qui peuvent toucher aux intérêts du Maroc, de l'intérêt peut-être éventuellement à récupérer des informations d'ordre personnel pour s'en servir un jour, le moment venu et le moment opportun. Donc ce logiciel-là prend le contrôle entier de votre appareil. Il peut activer votre caméra, il peut savoir à quelle vitesse vous parlez, il peut savoir à qui vous parlez, il peut rentrer et trouver vos mots de passe les plus secrets. Donc c'est d'une gravité absolue et c'est un logiciel de type militaire.
Dernière question, Laurent Richard. Quelle peut être la réponse de la France ?
On est vraiment face à une affaire d'État. C'est deux États l'un face à l'autre. Je pense que c'est aux autorités françaises maintenant de nous dire plusieurs choses, de nous dire déjà quels secrets ont été espionnés, si c'est le cas, de mener des expertises et de le faire savoir, et puis aussi de savoir comment la France nous protège et protège ses citoyens aussi de tels types d'attaques menées par les gouvernements qui utilisent ce logiciel-là.
Merci à vous Laurent Richard, fondateur de Forbidden Stories. Merci beaucoup. Une affaire qui se transforme bien sûr donc en crise politique et diplomatique, Sophie.
Oui, l'Élysée assure que si les faits sont avérés, ils sont graves et promet que toute la lumière sera faite. Une affaire qui fait également beaucoup réagir, comme au sein de la France Insoumise, où le député Adrien Quatennens a été surveillé. Écoutez la réaction de son collègue Hugo Bernalicis.
Je suis scandalisé que des moyens technologiques soient utilisés contre des ressortissants français, qui plus est le président de la République, un certain nombre de personnalités politiques, c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi nous avions tout à l'heure posé une question au gouvernement, au Premier ministre. Et vous avez été étonné, comme moi, j'imagine, de la non-réponse. Alors le Premier ministre serait moins bien informé que le journal Le Monde. Je ne le crois pas. Ce n'est pas sérieux. Nous avons nous-mêmes des services de renseignement. D'ailleurs, la question se pose, pourquoi n'y a-t-il pas de réaction ? Est-ce qu'on utilise nous-mêmes la même technologie ? Est-ce que c'est ça le problème ? Est-ce que, par ailleurs, nos services de renseignement sont en capacité de nous protéger des intrusions venant de l'extérieur ? Si tel n'est pas le cas, si technologiquement on peut aller dans votre téléphone à n'importe quel moment, sans même que vous ayez à cliquer sur un lien vérolé ou quoi que ce soit, alors il va être urgent de revenir à autre chose que le smartphone pour communiquer entre nous.
Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, au micro Europe 1 de Claudia Bertram.
Didier François, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions de sécurité sur Europe 1. On vient de l'entendre, ce député de la France Insoumise.
Je viens de découvrir qu'un téléphone, ça s'espionne.
Mais est-ce que nos services de renseignement sont capables de nous protéger ?
Alors, pas individuellement. En fait, encore une fois, mais franchement, tout le monde le sait qu'il faut faire attention. S'ils ont des choses à dire qu'ils ne veulent pas être écoutés, ils ne le font pas devant leur téléphone ou ils ne le font pas au téléphone. Effectivement, il y a une capacité aujourd'hui, que ce soit par des hackers...
Mais Didier, on se dit, pardonnez-moi, que les ministres, le président de la République, ont des téléphones qui ne sont pas les nôtres, ce sont des téléphones cryptés.
Hein. Ils en ont, mais ces téléphones cryptés, d'ailleurs, ne sont pas atteints. Quand ils utilisent les téléphones... Il y a un téléphone crypté, qui s'appelle le Théorème, qui est fait par Thalès et qui est distribué à l'ensemble des gens qui ont à l'avoir. C'est-à-dire que quand on doit prendre des décisions, qui sont des décisions de type totalement confidentiel, je sais pas, l'heure d'une opération, un déclenchement de quelque chose, évidemment, là, c'est classifié, c'est classé secret défense. Et là, il y a des procédures. Soit c'est discuté dans les salles où il n'y a pas de téléphone, comme ça, personne ne peut l'écouter. Soit c'est fait sur ces téléphones-là, qui sont ces téléphones un peu lourds, cryptés, très lourdement cryptés, et qui ne sont pas atteignables. En revanche, si vous utilisez votre téléphone personnel et un smartphone, sinon vous prenez n'importe quel téléphone qui n'est pas smartphone, et là, il n'y a aucun souci, personne ne va pouvoir vous écouter. Mais c'est les smartphones, le problème, c'est les nouveaux, les iPhones, et puis les espèces de Samsung, etc. Enfin, tous ces trucs qu'on a avec, qui font à la fois téléphone, vidéo, café, voilà, trottinette, j'en sais rien, mais bref. Donc c'est là qu'il y a toute notre vie. Donc évidemment, ça intéresse les services de renseignement étrangers, ça intéresse les annonceurs. La preuve, c'est qu'ils vous demandent sans arrêt de vous envoyer des choses. Vous savez, dites-moi machin, là, et puis hop, paf, d'un seul coup. Donc tout le monde sait ça, ici. Et la réalité, c'est qu'il faut faire attention à la façon dont on utilise ces choses-là.
Didier François, ce soir, la question, c'est que cherche le Maroc ? Quels sont les dossiers susceptibles d'intéresser les autorités marocaines ?
Alors, on peut. Là, on est dans
la supputation.
La supputation, mais d'abord, premièrement, on le voit bien si on voit la liste des cibles qui sont. Il y a la question du Front Polisario, qui pour eux est quelque chose de fondamental. Le Sud, le Sahara du Sud, clairement, c'est pour les Marocains un tabou absolu. Eux sont persuadés et se battent pour le conserver contre les indépendantistes sahraouis. Or, on le sait bien, là c'est le cas de la question de la France Insoumise, souvent la France Insoumise a soutenu les Sahraouis. Donc j'imagine que s'ils ont été ciblés, c'est bien pour ce sujet-là. Autre sujet, on le voit bien, qui est ciblé, c'est l'Algérie, qui est le pays voisin, grand concurrent, grand compétiteur, adversaire, donc qui est un souci permanent et un point d'attention fort des services de renseignement marocains. Et là, effectivement, ils ciblaient l'ensemble de l'appareil d'État et de sécurité algérien, mais également les diplomates français qui étaient amenés à en savoir et à en connaître, à commencer par l'ambassadeur et l'attaché de défense. Et puis, on voit bien un certain nombre de ministres français qui, à la veille de réunions importantes sur ces questions-là, pouvaient discuter avec un certain nombre de gens.
Dernière question, très, très rapidement, quelle peut être la réponse diplomatique de la France ?
Honnêtement, alors là, ça sera... Encore une fois, là, ce sont des choix... Quand on est face à des adversaires ou des ennemis, c'est facile. Là, c'est plus compliqué parce qu'on est avec des alliés et des amis. C'est comme quand on se fait prendre la main dans le sac. C'est un ami, il va falloir discuter avec eux d'un mode de fonctionnement qui soit... Alors, en général, l'astuce, c'est d'essayer d'en savoir plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez espionné et puis, avoir accès, d'un certain point de vue, aux renseignements obtenus. C'est ça le but du jeu, parce que ce qui est fait est fait. Donc, et puis après, essayer de remonter en gamme et rappeler, encore une fois, que les questions de sécurité, en fait, les failles, c'est l'utilisation. Si on ne parle pas au téléphone ou si on ne prend pas son téléphone dans les réunions où il n'a pas à être, eh ben, il n'y a pas de possibilité de pénétrer.
Merci.
Donc,
à Didier,
sécurité de communication.
Didier François, spécialiste des questions de sécurité sur Europe 1. La suite de votre journal, Sophie Tussaud, avec la traque pour retrouver l'homme en cavale depuis dimanche, qui est terminée.
Oui, le corps d'un homme correspondant au fugitif a été retrouvé dans le village de Gréolières, dans les Alpes-Maritimes. Marc Floris était soupçonné d'avoir tué une femme près de Saint-Tropez. Il était recherché depuis dimanche. Plus de 150 gendarmes et forces du GIGN avaient été mobilisés pour le retrouver. Hier, le préfet avait appelé le fugitif à déposer les armes et à se rendre. Il y a un peu plus de 2 ans, Steve Maya Canisso mourait le soir de la fête de la musique à Nantes. Il s'était noyé après avoir sauté dans la Loire, après une charge controversée de la police. Et le commissaire en charge du dispositif a été mis en examen aujourd'hui pour homicide involontaire, Marion Dubreuil.
Oui, c'est ce commissaire qui était en charge du dispositif de police, Kay Wilson, le soir de la fête de la musique à Nantes. Grégoire Chassin conteste aujourd'hui les motifs de sa mise en examen pour homicide involontaire. Pour la famille de Steve Maya Canisso, en revanche, c'est un soulagement. Leur avocate, Cécile De Oliveira, parle même d'une petite réparation.
Pour la famille de Steve Maya Canisso, l'essentiel est que la responsabilité de la police soit retenue. C'est bien évidemment cette intervention policière qui est directement la cause de la chute de Steve Maya Canisso dans la Loire. Et à ce stade, je reste vigilante et attentive à ce dossier.
Un dossier sur lequel le Premier ministre en personne s'était exprimé il y a 2 ans. Édouard Philippe avait écarté toute implication de la police sur la seule base du rapport administratif de l'IGPN, la police des polices. Depuis, l'information judiciaire a été dépaysée et confiée à un juge d'instruction à Rennes. Un autre commissaire, le directeur adjoint de la sécurité publique de Loire-Atlantique, a été placé sous le statut de témoin assisté. Les auditions de la maire de Nantes, son adjoint à la sécurité, l'ancien préfet et son directeur de cabinet vont se poursuivre jusqu'à la rentrée.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Le nombre de contaminations s'emballe en France. Le pays est actuellement traversé par la 4e vague.
18 000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures. Une hausse jamais vue provoquée par le variant Delta. Écoutez Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Le virus circule beaucoup. Il circule beaucoup plus vite. Nous le savions, nous le constatons. Il circule essentiellement chez les jeunes. Il circule sur tout le territoire national. Il circule en Outre-mer, je pense notamment à la Martinique. Je viens d'avoir les chiffres de contamination des dernières 24 heures dans notre pays. J'avais parlé des risques d'avoir 15 ou 20 000 cas par jour à la fin du mois de juillet. Nous étions hier à 18 000 contaminations sur 24 heures seulement. Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine. Nous n'avons jamais connu cela, ni avec le Covid, ni avec le variant anglais, ni avec le sud-africain, ni avec le brésilien. Oui, nous avons une arme, la vaccination. Oui, nous avons des vaccins. Oui, nous mobilisons les centres, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers partout, sur tout le territoire national et tout le temps. Et nous invitons les Français à se connecter massivement aux plateformes, à aller voir leurs centres. Le temps n'est plus au doute, le temps n'est plus à l'hésitation. Le temps est à l'immunité collective, c'est de la responsabilité collective. Et c'est le seul moyen que nous avons, et nous l'utiliserons à bon escient, de nous débarrasser du Covid une fois pour toutes.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Le gouvernement mise plus que jamais sur la vaccination pour éviter un grand nombre de décès et que les services de réanimation ne se retrouvent une nouvelle fois saturés. 40 millions de premières doses devraient avoir été injectées à la fin du mois de juillet, soit avec un mois d'avance sur le calendrier initialement prévu. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui Jean Castex.
Et avec l'extension du pass sanitaire, les Français se ruent dans les centres de vaccination comme dans les Pyrénées-Orientales, département le plus durement touché par l'épidémie, et notamment à Perpignan, Henri de la Guérie, où vous étiez tout à l'heure.
Oui, dans le centre de vaccination de la rue Foch, au cœur de la cité catalane, la plupart des gens viennent sans rendez-vous. Depuis une semaine, le rythme des injections s'est nettement accéléré dans ce département touché de plein fouet par la quatrième vague, comme le confirme le docteur Sylvain Pavageot, responsable du centre.
Les gens, voyant les chiffres augmenter, ils ont peur. On a beaucoup de gens qui, jusqu'à présent, ont hésité et se sentent maintenant soit concernés, soit obligés par les mesures donc, qui ont été mises en place.
Les jeunes sont les plus touchés par le variant Delta, avec dans les Pyrénées-Orientales un taux d'incidence chez les 20-29 ans de 1150 cas pour 100 000 habitants. C'est un record en France. Ce sont donc des jeunes que l'on croise surtout au centre de vaccination. Amélie, 17 ans, est venue avec sa mère pour recevoir sa première dose.
Au final, on n'a pas vraiment le choix si on veut pouvoir sortir, faire un peu ce qu'on veut. Sinon, on n'a pas de liberté, en fait.
Pourquoi tu ne l'avais pas fait jusqu'à présent ?
Parce que j'y pensais pas vraiment. Je me suis dit, si c'est pas obligatoire pour l'instant, autant pas le faire et on verra bien quoi.
Voilà, mais ici, il reste encore un certain nombre de gens à convaincre. Ce matin, devant l'hôpital de Perpignan, une soixantaine de personnes manifestaient contre le pass sanitaire et l'obligation faite aux soignants de se vacciner.
Henri de Laguérie à Perpignan pour Europe 1. Le Parlement adopte définitivement ce soir la loi climat, un texte décrié par les ONG écologistes et la gauche et considéré comme un tournant écologiste par le gouvernement. Aujourd'hui était jour de deuil national en Belgique. Une semaine après les inondations meurtrières qui ont coûté la vie à au moins 31 personnes, le pays s'est figé. Une minute de silence a été observée à midi. L'Allemagne également a été lourdement endeuillée lors des violentes inondations de la semaine dernière. Et le bilan dans le pays est grimpé aujourd'hui à 169 morts.
19h16, c'est une nouvelle étape importante dans le tourisme spatial. Le milliardaire américain Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, a effectué aujourd'hui son premier vol dans l'espace.
Oui, un vol d'une dizaine de minutes à bord de la fusée New Shepard, créée par son entreprise Blue Origin. Il est ensuite revenu sur Terre sans encombre.
Et on est à présent à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo.
Et alors que l'échéance approche à grands pas et malgré l'optimisme affiché, les organisateurs ne savent plus trop sur quel pied danser, Julien Froment.
Oui, cette fois-ci, le comité d'organisation est bien moins optimiste quant à la tenue des Jeux Olympiques. À 2 jours du coup d'envoi avec les épreuves de softball et de football, le directeur général de Tokyo 2020, Toshiro Muto, a entrouvert la porte à une possible annulation si les conditions sanitaires venaient à se dégrader.
Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera avec le nombre de cas de coronavirus. Nous poursuivrons donc les discussions s'il y a un pic de cas. À ce stade, les cas de Covid peuvent augmenter ou diminuer. Nous réfléchirons donc à ce que nous devrons faire lorsque la situation se présentera.
Alors pour l'instant, il y a en moyenne, depuis une semaine, 1000 cas de Covid journaliers à Tokyo. Si ce n'est encore que de la science-fiction, l'annulation des Jeux serait un cataclysme économique pour le Japon. Le report a déjà alourdi la note d'1,6 milliard d'euros. Avec le huis clos, c'est également 1 milliard en moins dans les caisses. Et selon certaines estimations, annuler les JO entraînerait un surcoût de 4 à 6 milliards d'euros, sans compter le manque à gagner pour le CIO. Qui se chiffre là aussi en milliards d'euros.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. On va parler cinéma à présent et ce soir a lieu l'avant-première du film Kaamelott à l'Odéon à Paris. L'histoire décalée humoristique du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde.
Avec 60 000 billets vendus en 24 heures dès l'ouverture des places d'avant-première, le film a battu un record de pré-vente pour un film français. Caroline Baudry, vous êtes devant un cinéma à Paris pour une séance d'avant-première. Les fans sont au rendez-vous, hein ?
Oui, ils sont quelques dizaines de spectateurs à patienter le long du boulevard devant l'entrée du cinéma. Tous ont leur billet dans la main, acheté en avance sur Internet, comme Flo qui, dans quelques instants, va mettre fin à de longues années d'attente.
Je suis fan de la série qui s'est déjà arrêtée il y a 10 ans et on savait que le film devait sortir. Et donc ça fait longtemps qu'on l'attend, mais ça fait longtemps qu'il est annoncé. Et voilà, j'ai hâte de savoir la suite, de savoir ce qui va se passer. C'est long 10 ans, mais on trouve d'autres occupations entre-temps.
Oui, puisqu'il me parle qu'on réplique de Kaamelott à la maison, tout.
Voilà. La phrase choc là, du film, c'est la patience est un plat qui se mange sans sauce.
Phrase extraite d'une bande-annonce du film, Jeanne et son ami n'ont pas non plus résisté à découvrir le casting, Alain Chabat, Christian Clavier, Géraldine Nakache notamment, et puis quelques extraits.
Avec les teasers qui sont sortis, avec les musiques qui sont sorties, on a retrouvé l'esthétique et l'humour aussi de la série. J'ai pas de doute que je vais pas être déçue.
Que ce soit la légende arthurienne ou l'humour qui m'a beaucoup plu, moi aussi j'ai aucun doute que ce sera dans le même esprit mais avec le grandiose du cinéma.
On a hâte.
Durée du film, 2 heures, accessible bien sûr aux néophytes de la série.
Caroline Baudry, puis j'ai une bonne nouvelle, Thierry, pour refermer
ce
nouvel, oui, ce journal. Bah, écoutez, on vient d'apprendre juste à l'instant que vous vous souvenez de la femelle panda qui est au zoo de Beauval,
oui.
Van Ruyen.
Oui.
Eh bien, elle attend un heureux événement.
Félicitations à elle. C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup, Sophie. Vous revenez avec plein de bonnes nouvelles à 20h. La météo, Marlène Duré, avec des bonnes nouvelles également. Notamment, il a fait chaud aujourd'hui sur la Bretagne, très chaud même.
Oui, on a atteint et dépassé les 30 degrés en Bretagne. On devrait les atteindre demain et jeudi à Brest, ce qui ferait 3 jours consécutifs à plus de 30 degrés. C'est inédit en juillet, c'est inédit. Alors demain, à peu près les mêmes températures, on ne va pas les donner. Voilà, à peu près 26 à 36 d'une manière générale. Le pic de chaleur, on rappelle que c'est pour jeudi, au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon avec 35 à 38 degrés. On va surveiller ça à partir de vendredi. Pouf, dégringolade avec la dégradation orageuse. Demain, côté ciel. Allez, c'est encore une belle journée avec du grand soleil, quelques bémols intempestifs avec ces grisailles du matin là qui persistent dans le sud-ouest, au sud de la Garonne, quelques averses l'après-midi sur les massifs montagneux et on s'arrêtera là.
Merci beaucoup Marlène, à plus tard dans un instant.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Voilà, restez avec nous dans un instant, le club des idées et la découverte littéraire de Stéphane Place. Ne quittez pas, on revient tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h22 sur Europe 1, tous les soirs de l'été, rendez-vous pour une découverte littéraire avec Stéphane Place, en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Ce soir, L'inconnu de la Poste, c'est signé Florence Aubenas.
Un pied sur le tapis rouge, l'autre dans le caniveau. C'est en claudiquant que Gérald Thomassin, césarisé en 1991 pour son rôle dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon, avance dans l'existence. Cabossé par la vie, l'acteur si prometteur échoue dans un village de l'Ain, Montréal-Lacluse. C'est là, un matin d'hiver en décembre 2008, que l'on découvre Catherine Burgot, tuée de 28 coups de couteau dans le petit bureau de poste dont elle est la responsable. Pour un butin qui n'atteint pas les 3000 euros, un choc terrible pour les habitants. Notre 11 septembre à nous, dira un élu local. Très vite, sans la moindre preuve matérielle, Gérald Thomassin devient le suspect, le coupable idéal aux yeux de beaucoup. C'est ce fait divers qu'explore Florence Aubenas dans L'inconnu de la Poste, un récit qui a marqué Émilie Sabatier, libraire chez Mola.
L'enjeu du livre est de savoir si c'est effectivement Thomassin ou pas, mais est-ce que l'intérêt du livre ne va pas encore plus loin que le fait de le savoir ou pas ? Que reste-t-il derrière le récit de cette enquête ? Est-ce que ce n'est pas finalement la littérature avec le monde qu'elle peut décrire ? Les personnages qui sont beaux, qui sont laids ? La force du bouquin, c'est de pouvoir donner la parole à tous ces personnages qui sont tour à tour touchants, agaçants, écœurants, effrayants. Et c'est ce qui reste finalement dans ce décor plutôt magnifique. C'est toute cette humanité.
Un roman vrai, magnifiquement porté par la plume sensible de la journaliste du Monde, Florence Aubenas, qui raconte cette histoire vue par Thomassin, par ses copains de galère, mais aussi par les villageois, par le père de la victime, sans perdre de vue l'enquête.
De rebondissement en rebondissement, un des derniers en date est de dire finalement cet ADN trouvé à la poste a matché. On a trouvé quelqu'un à qui il appartient. Se pose la question, qui est celle des enquêteurs, qui est de dire cette personne connaissait-elle que Thomassin ? Était-il complice ? Ou il n'a rien à voir avec ça ? Et donc on va les confronter et voir s'ils se connaissent. Thomassin, il m'appelle la veille de cette confrontation. Il est ravi. Lui pense qu'il va être mis hors de cause. Mon innocence va être reconnue puisque je ne connais pas cette personne. Et d'ailleurs l'autre dit la même chose. Le bout du tunnel. Au fait, je n'ai pas de quoi prendre le train, est-ce que tu pourrais m'avancer 100 euros ? Je me dis, quand même, c'est le dernier acte, ok, très bien, je lui fais un mandat, l'argent lui arrive, on regarde sur Internet pour voir quel train prendre, et en fait, sur ce trajet de train, il disparaît, et il est toujours porté disparu jusqu'à ce jour.
Dans L'inconnu de la Poste, Florence Aubenas n'oublie aucune dimension, ni le volet judiciaire, ni surtout la portée sociale et humaine de ce fait divers.
Stéphane Place, en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Allez, dans un instant, on ouvre le club des idées. La France a connu des crues dans l'est du pays il y a quelques jours, moins dramatiques bien sûr qu'en Allemagne ou en Belgique. Comment font les villes pour éviter que cela ne recommence ? Je vous attends bien sûr avec plaisir au 39-21. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h26, le débat du Club des idées à présent. On va s'intéresser à ces épisodes de crues de plus en plus fréquents. Ils peuvent avoir des conséquences dramatiques, bien sûr, comme en Allemagne ou en Belgique la semaine dernière. En France, comment sont gérés les risques et comment les reconstructions et la résilience des territoires prennent forme ? On en parle ce soir avec Emma Aziza, qui est hydrologue. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de la résilience des territoires face aux risques climatiques extrêmes. On passera un coup de fil également tout à l'heure à Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule. Et puis, ce sera passionnant, on sera avec Xavier Pelletier, préfet délégué à la reconstruction des vallées, notamment la préfecture des Alpes-Maritimes, bien sûr après les inondations de la vallée de la Roya. Emma Aziza, une première question à vous sur les 16 épisodes d'inondation les plus meurtrières du siècle en France. 6 ont eu lieu pendant les 10 dernières années. Ce sont des phénomènes qui deviennent de plus en plus réguliers, Emma Aziza.
Il y a deux éléments. Il y a le fait qu'effectivement, le nombre s'accroît. Depuis vraiment 2002, 2003, 2005, on a vu de plus en plus de précipitations diluviennes toucher tout le pourtour méditerranéen. Ouais. Ce sont aussi des phénomènes qui sont beaucoup plus médiatisés qu'avant, puisqu'on a déjà eu de très grandes crues dramatiques, par exemple l'Aigat en 1940 qui avait touché les Pyrénées orientales, qui avait fait 250 victimes entre l'Espagne et la France, sauf que c'était en pleine guerre. Donc en général, quand ces phénomènes se produisaient à l'époque, ça se produisait localement. La mémoire était locale et l'information ne devenait pas nationale. Aujourd'hui, on a pris conscience de ça et c'est vrai que depuis 1988 à Nîmes, on a vu cette force des flots. Tous ceux qui ont connu, qui étaient nés en tous les cas en 1992, se rappellent de cette caravane qui vient et qui s'effondre comme ça sur le pont de Vaison-la-Romaine. Donc, on a commencé à comprendre qu'effectivement, il y avait de plus en plus de phénomènes. Ce qui est très nouveau et très récent, est-ce que l'histoire que nous raconte en fait l'événement des Alpes-Maritimes sur la Tinée, la Vésubie et la Roya, et l'histoire de ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'on est face à des phénomènes nouveaux, hors cadre, que hydrologiquement, nous ne connaissions pas. Mmh. Oui.
Avec nous, Xavier Pelletier, préfet délégué à la reconstruction des vallées, préfecture des Alpes-Maritimes. Bonsoir, monsieur Pelletier.
Bonsoir.
Justement, Emma Aziza parlait à l'instant de ce phénomène dans la vallée de la Roya qu'on ne connaissait pas. Pour vous, ça a été une découverte. La reconstruction, vous êtes bien sûr en plein dedans, j'ai envie de dire, hein, encore aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'on est, en face d'une situation qui est assez traumatisante. Alors évidemment pour ceux qui l'ont vécu, mais aussi pour ceux qui vont dans ces vallées et qui constatent à quel point les dégâts sont majeurs. Beaucoup d'experts considèrent d'ailleurs que ce sont des dégâts les plus importants en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. Quand vous pensez qu'il y a une centaine de kilomètres de routes qui ont été emportées, une quarantaine de ponts d'ouvrages d'art. Alors non, sur les trois vallées.
D'accord.
Donc on a vraiment eu à faire un paysage de guerre, hein, comme si ces vallées avaient été bombardées avec des sillons, des rivières paisibles qui se sont transformées en véritables torrents, en laves torrentielles qui ont tout balayé sur leur passage.
Xavier Pelletier, ça coûte énormément d'argent. Combien cela coûte pour ces trois vallées donc des Alpes-Maritimes?
Les dégâts sont estimés à hauteur du milliard, à peu près 750 millions d'euros pour les infrastructures publiques et à peu près 250 millions d'euros pour les biens privés qui ont été détruits.
Des coûts que les territoires doivent assumer, les collectivités, l'État, comment ça se passe? Et est-ce que c'est compliqué à rassembler aussi?
Alors, lorsqu'il s'est rendu dans les vallées le 7 octobre dernier, le président de la République a fixé un cap. Il a dit la reconstruction des vallées devra être résiliente et durable. Donc il a souhaité, et il a annoncé très clairement aux habitants, aux élus, que l'engagement de l'État serait fort. Donc l'appui de l'État est au rendez-vous, c'est 572 millions d'euros qui seront mobilisés pour cette reconstruction, qui ne doit pas être uniquement qu'une course à l'enrochement, au béton et au bitume, mais qui doit aussi penser le devenir de ces vallées en termes de développement, d'attractivité. Mmh. Il ne s'agit pas uniquement de reconstruire les infrastructures, il faut aussi donner un avenir à ces vallées.
Restez avec nous, Xavier Pelletier, un préfet délégué à la reconstruction des vallées, notamment de celle de la Roya. Emma Aziza, est-ce qu'on arrive à prévoir efficacement les inondations aujourd'hui, où il y a encore des trous dans la raquette finalement?
De plus en plus, en tous les cas, on a vraiment une évolution, notamment des services de Météo France et des services Vigicru, donc qui prévoient cette alerte sur les rivières, sur les fleuves. On a vraiment une amélioration. Il y a d'ailleurs même une nouvelle fonction Vigicru Flash qui vient prévenir ces flash floods, c'est-à-dire ces crues éclairs qui sont capables de s'élever. Pour vous imaginer, ce qu'est une crue éclair, faut comprendre Vaison-la-Romaine, Louvèze, un petit cours d'eau de 20 cm de hauteur qui va monter à 10 mètres de hauteur en 4 heures. Et donc là, effectivement, il y a de plus en plus de moyens qui sont mis parce qu'on a eu une récurrence telle de phénomènes à Cannes en 2015. Ça a été tellement successif. Et puis là, on voit qu'avec, il y a encore 2 ans, on avait trois semaines successives de vigilance rouge. Chaque semaine, on avait à nouveau une vigilance. On avait des populations traumatisées qui étaient à nouveau exposées sans trop savoir à quoi elles allaient être confrontées. Donc je pense qu'on a encore bien entendu une marge de manœuvre entre le système Météo France en 4 couleurs qui finalement on sait jamais trop dans la vigilance orange comment se comporter, est-ce qu'on doit évacuer, est-ce qu'on doit se confiner, quand on a une vigilance rouge qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on évacue totalement, c'est encore un peu compliqué et ça doit se jouer à l'échelle des territoires et les maires ont un rôle essentiel à ce niveau. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en matière de gestion de crise, tout doit être réfléchi avant. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui hydrologiquement dire à quelle hauteur d'eau arrivera cette inondation et comment elle rentrera dans une maison. On sait le prévenir. Donc maintenant, il faut réfléchir à partir de ça.
Voyez. Alors justement, on parlait des maires. On va accueillir Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je voudrais d'abord que vous rappeliez ce qui s'est passé à Mandelieu-la-Napoule et en quoi vous connaissez complètement ce sujet.
Bah écoutez, la ville de Mandelieu a été frappée le 3 octobre 2015 par une crue qui a été qualifiée de tricentennale, qui d'ailleurs, comme le rappelait très bien l'experte qui est intervenue avant moi, a fait passer un cours d'eau de quelques centimètres à 8 à 10 mètres de haut, et donc qui a dévasté tout un quartier de la ville en faisant 8 victimes. Et c'est une crue qui est survenue en une heure. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé d'un temps où il faisait beau à un temps de catastrophe en 60 minutes. Et à nouveau en 2019, 2 fois en 6 jours, où là, naturellement, on a revécu des épisodes extrêmement difficiles.
Emma Aziza disait à l'instant, les maires ont un rôle essentiel. Vous êtes d'accord, bien sûr, avec elle. Vous êtes au premier plan.
Bah, les maires sont en première ligne, c'est-à-dire que quand vous avez un risque qui se déclenche et qu'une alerte va se préciser, c'est au niveau communal que les décisions doivent être prises naturellement en lien avec la préfecture, mais ce sont les maires qui vont mettre en place les procédures d'évacuation et qui, à plus ou moins moyen et long terme, vont mettre en place les systèmes à la fois d'alerte, mais aussi de résilience du territoire. D'ailleurs, je salue le préfet Xavier Pelletier avec qui j'ai échangé il y a quelques semaines sur ce sujet. Naturellement, ça doit se jouer au niveau communal puisque c'est la première ligne de défense.
Sébastien Leroy, on va s'arrêter parce que c'est passionnant quelques minutes avec vous. Parce que vous avez mis en place un groupe spécial axé sur la transformation globale du territoire communal pour lui permettre d'affronter les risques. Comment vous avez travaillé? Racontez-nous.
Alors en fait, en 2015, quand il y a eu la crue du 3 octobre, on s'est aperçu que le territoire, qui est d'ailleurs pas une spécificité de la Côte d'Azur, mais qui est quand même assez révélateur, c'est que c'est un territoire qui est extrêmement urbanisé sur une frange littorale, et on a des cours d'eau qui arrivent sur cette frange littorale. Donc on s'est retrouvé du jour au lendemain sur un territoire urbanisé face à des risques naturels sans précédent. Et on s'est aperçu assez rapidement, au bout d'un an ou deux, que malheureusement, les procédures réglementaires et légales en France n'étaient plus adaptées à une prise de décision rapide, parce qu'il y a trop de normes, il y a trop de règlements, il y a trop de procédures, c'est beaucoup trop long. Et quand on a eu à nouveau les deux crues en 2019, partant du constat qu'il fallait essayer d'aller vite et que quelque part on était toujours dans un dialogue bilatéral, soit c'était la commune qui parlait avec les propriétaires fonciers, soit c'était les propriétaires qui parlaient avec l'État, etc. Et on n'arrivait à rien. On s'est tous mis autour de la table, c'est-à-dire la ville, l'État, la DDTM, la prévention des risques, les propriétaires, pour dire voilà ce qu'on doit faire. Voilà comment il faut y arriver. Voilà aujourd'hui ce que Valve ou Foncy ne peuvent pas valoir plus. Ouais. Voilà ce que l'État vous propose pour sortir par le haut. Voilà ce que la ville est prête à faire comme engagement et à lancer comme aménagement du territoire à l'échelle de la ville. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut transformer en un temps record des villes qui sont urbanisées depuis 100 ans. Et ça a réussi à porter ses fruits.
Et là, justement, Sébastien Leroy, vous vous concluez un accord avec l'immobilier groupe Casino. Vous rachetez les terres qui appartenaient au groupe Casino, finalement.
C'est ça. Bah, par cette méthode, on est sorti d'une situation qui était en l'état depuis plusieurs décennies. Ouais. On a réussi à la régler en 10 mois. On rachète 14 hectares à l'immobilier Casino qui a compris et qui joue là un vrai rôle de responsabilité. Parce que imaginez quand même que pour un groupe privé, se séparer de 14 hectares sur la Côte d'Azur, sur le prix d'un terrain naturel, naturellement c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice qui est nécessaire puisqu'on ne peut plus faire autrement. Les risques naturels, les intempéries, les inondations vont se reproduire, peut-être avec plus de force encore. Ouais. C'est véritablement une course contre la montre. Et c'est des avancées comme ça, quand on est tous ensemble, qu'on peut surmonter les défis.
Et sur ce terrain que vous avez racheté au groupe Casino, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Rien, ça va permettre justement, en cas de crue, de pouvoir absorber, on va dire, ce trop-plein d'eau ?
Alors en fait, ce terrain va se retrouver au centre d'un dispositif de zone d'expansion de crue, c'est-à-dire qu'il va relier deux cours d'eau entre eux, le Rio de l'Argentière, il va les relier à la Siagne, et il va permettre... non pas de supprimer, mais de réduire les risques, parce qu'on ne pourra jamais supprimer le risque d'une crue éclair, vu les quantités d'eau. Par contre, il va permettre de réduire, d'orienter l'eau, pour lui permettre de s'écouler en suivant la bathymétrie naturelle. Ouais. Et ces vastes hectares qui vont retourner à la nature, auxquels on va additionner d'autres terrains, où on va démolir les constructions qui sont dessus pour les renaturaliser, va permettre de ralentir l'eau, de la stocker et de la guider sur un territoire où on va pas être en impact direct avec des habitations. Et c'est ça en fait l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus l'éviter, mais il faut s'adapter. Et après, à plus long terme, il faut modifier l'architecture de nos bâtiments, c'est-à-dire qu'il faut construire différemment, moins d'emprise, plus de hauteur. C'est un mot qui est pas facile à prononcer sur un territoire naturellement, mais on peut faire aujourd'hui des choses très intéressantes. Il faut le faire, parce qu'on n'a plus le choix.
Emma Aziza, un mot de ce qu'a fait le maire de Mandelieu-la-Napoule. C'est formidable. Il faut repenser tout ce système, finalement.
Oui, il y a vraiment deux actions. Il y a effectivement le fait de réduire cet impact de l'inondation en ralentissant les écoulements, en permettant de diriger l'eau du mieux qu'on peut. Mais effectivement, vu les quantités d'eau extraordinaires, on ne peut pas empêcher quand même l'eau d'arriver. Et donc, en tous les cas, dans certains endroits, c'est quasiment impossible à mettre en œuvre. Dans d'autres, on y arrive. Donc là, il faut travailler sur l'enjeu. Il faut travailler sur la maison, sur l'entreprise. Et il faut accompagner les gens. Et vraiment, l'expérience de terrain nous montre que on peut y arriver à condition d'expliquer aux gens, déjà, s'ils doivent se confiner ou évacuer. Il y a des solutions qui sont mises en œuvre qui permettent justement de réduire la vulnérabilité du bâtiment. Faut-il encore pouvoir les mettre en œuvre ? Il y a encore quelques rouages qu'il va falloir dépasser aujourd'hui parce qu'il y a une prise en charge très forte de l'État, jusqu'à 80% d'aide, voire 100% dans certaines zones. Le problème, c'est que c'est encore compliqué d'accéder à ces aides. Parfois, pour le particulier, il faut de toutes les façons qu'il avance les frais. Donc il y a une certaine réticence des populations à aller sur ce chemin, même s'il y a une aide, parce que c'est compliqué pour tous de mettre 10 000 euros et de se faire rembourser dans 6 mois. Donc voilà, je pense qu'il va falloir avancer dessus, parce que les solutions, on en a beaucoup. On en a beaucoup pour sauver la vie humaine, pour travailler sur la gestion de crise, pour travailler sur cette dimension de l'alerte à petite échelle. On est capable de plus en plus de faire des choses incroyables. Il y a par exemple le cell broadcast, qui est un moyen qui nous permet, à l'échelle de votre téléphone, de vous géolocaliser et de vous envoyer une information si vous êtes en danger. Vous voyez, toutes ces solutions vont protéger l'humain. On est capable de plus en plus de protéger le bâti. Il y a encore trop peu d'experts architectes sur la réduction justement de vulnérabilité. Et il y en a sans doute même qu'un seul que je connais et qui travaille sur Mandelieu. Mais effectivement, il va falloir développer ça. Chez les architectes, chez les urbanistes, il faut absolument que cette dimension de la puissance de l'eau soit intégré dans tous ces corps de métier pour qu'on travaille de concert. Et c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à réduire cette vulnérabilité territoriale.
C'est passionnant. On va continuer à en parler dans un instant. Merci à vous, Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu et Nanapoule. Bravo à vous. Je vous libère. On continue bien sûr à en parler avec vous dans un instant, Emma Aziza, et puis avec le préfet Xavier Pelletier. Merci, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h42 sur Europe 1, la suite de votre club des idées. Vous savez que ce soir, on s'intéresse à comment les communes, comment on gère les risques, comment on reconstruit finalement, et puis cette question de la résilience des territoires. On en parle avec Emma Aziza, qui est hydrologue, et puis avec le préfet Xavier Pelletier, préfet délégué à la reconstruction des vallées, notamment celle de la Roya dans les Alpes-Maritimes. On en parle également avec vous au 39-21. Bonsoir Frédéric.
Merci de me prendre à l'antenne. Voilà,
vous
moi
vous appelez d'Arcachon, Frédéric, c'est bien
oui,
ça.
Oui, je vous appelle d'une région qui n'est pas montagneuse, ouais. Qui est très très plate, hein, mais croyez-moi, le risque hydrologique est quand même très important. Et alors, bien sûr, on n'a pas des catastrophes, des cataclysmes comme ça, parce qu'on n'a pas le courant, si vous voulez. Bon, mais il y a un problème récurrent surtout le bassin d'Arcachon, l'heure actuelle, c'est le problème de l'urbanisation. Et comme vous avez une dame hydrologue, c'est l'imperméabilisation des sols. C'est-à-dire que où vous aviez du sable, maintenant c'est du goudron. Alors, l'eau ne peut plus s'écouler. C'est assez effrayant de voir l'urbanisation autour de ce bassin d'Arcachon, sous la houlette même de la préfecture qui prend, qui réquisitionne les terrains de plus de 1000 mètres pour faire du N+1 et tout ça. Ça fait qu'on arrive où avant, normalement, le sable, l'eau, ça permettait, on est au niveau zéro de la mer, d'écouler l'eau. Maintenant, vous êtes dans du goudron et du béton. Et pour moi, c'est un problème majeur, parce qu'il y a beaucoup de zones où cette imperméabilisation des sols. Eh ben écoutez, c'est comme dans le Midi. Je connais un petit peu la côte d'Azur dans le Var. Ouais. Vous avez maintenant des endroits où il y avait des terrains. Maintenant, ce sont des routes goudronnées. L'eau, quand elle descend là-dedans, c'est un véritable torrent. Et si vous voulez, il y a quand même un gros problème d'urbanisation.
Bien sûr.
Depuis la loi de Madame Duflot, avec la suppression du coefficient d'occupation des sols, maintenant on construit sur même pas 400 mètres carrés. Vous avez le droit à 40%. On fait une maison de 160 mètres carrés sur un petit terrain. Ça fait qu'on arrive à une saturation complète du terrain. C'est même plus des phénomènes naturels. Là, on arrive avec avec les sols qui sont totalement imperméables. Maintenant, moi, je vois à côté qu'il y a du goudron, du béton partout. Ouais. Donc, si vous voulez, on aura certainement des problèmes. Si jamais il y a une grosse marée un jour un peu plus forte que d'habitude, on va refaire du Cynthia, mais on continue de construire. Et ça, je vous dis, franchement, je crois qu'il y a un gros problème là-dessus.
Cynthia qui avait touché la Vendée il y a quelques années. On va demander à Emma Aziza de vous répondre, hein, Emma Aziza, hydrologue. C'est un vrai souci ce que raconte Frédéric.
Alors c'est vrai qu'il y a un problème en France et dans le monde en fait d'imperméabilisation des sols.
Ouais.
Il y a plusieurs choses. À partir du moment où vous construisez un pont, une route, une maison, vous allez construire surtout un objet qui va être une obstruction au libre écoulement des eaux. Donc en fait, l'eau va emprunter un nouveau passage. Donc si vous aviez fait une modélisation avant pour bien comprendre les fonctionnements de l'écoulement de l'eau, vous allez en fait avoir un fonctionnement qui est modifié. Il y a d'autres problèmes. Là on parle des villes et de l'urbanisation, on peut aussi parler de la problématique agricole. On a aujourd'hui le travail de l'agriculture intensive générer en fait des pertes de sol colossales. On a des effets de ruissellement en nappe que l'on observe partout. Et effectivement, avant, il y avait le fait d'avoir des milieux racinaires, d'avoir des arbres, d'avoir de l'agroforesterie. Toutes ces solutions permettaient en fait d'être des freins aux écoulements. On peut citer encore d'autres choses. Vous avez beaucoup de villes qui ont enterré leurs rivières souterraines et souvent sous-calibré leurs rivières et puis ils redécouvrent qu'en réalité, cette rue-là, c'était une rivière avant parce que l'eau reprend ses droits à un moment donné. Donc effectivement, c'est un vrai problème parce que là, ce à quoi vous faites appel quand vous parlez de la question d'imperméabilité, c'est que vous faites appel à un autre type de risque qui est une des parts du risque inondation, qui est le ruissellement. C'est-à-dire cette eau qui ne peut pas s'infiltrer, qui ne peut pas rejoindre une rivière ou un lit naturel d'un cours d'eau et qui va emprunter des axes d'écoulement préférentiels là où elle va pouvoir passer. Et donc ça, c'est un risque qui n'est aujourd'hui pas cartographié, qui n'est pas mesuré, maîtrisé. Et quand on voit les images de Reims au mois de juin, on comprend ce que ça peut générer. Et donc, je pense qu'il va falloir vraiment travailler de concert pour pour comprendre que le risque d'inondation, ce n'est pas juste sur les fleuves et les rivières principales. Ce sont des tout petits affluents, souvent à sec. On a même oublié que c'était une rivière. On a souvent canalisé. Donc, quand vous canalisez une rivière qui avait tendance à sinuer, bah, finalement, vous allez accroître le débit et la vitesse, donc la force de corrosion. Mmh. Et donc, quand l'eau va arriver, ben, elle va tout dévaster sur son passage. Donc, effectivement, on a perdu énormément de cohérence sur ces dizaines de dernières années, si vous voulez. Et pour retrouver de la cohérence, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il va falloir sans doute lever des freins, avoir des cerveaux beaucoup plus agiles pour agir très vite, parce qu'il faut massifier tout ça, massifier l'adaptation, massifier la reconnexion justement naturelle des cours d'eau, essayer de comprendre ces effets de ruissellement et calibrer les villes pour ça. Vous voyez, c'est un chantier qui est colossal. Ouais,
merci à vous Emma Aziza, vous restez avec nous. Merci à Frédéric de nous avoir contacté au 39-21. Je me tourne vers vous, je voudrais qu'on passe un peu de temps avec vous, le préfet Xavier Pelletier, préfet délégué à la reconstruction des vallées, notamment celle de la Roya dans les Alpes-Maritimes. Monsieur le préfet, est-ce que l'État doit reprendre la main sur la gestion des risques pour éviter aux maires d'avoir des décisions à prendre difficilement tenables politiquement parfois, notamment bien sûr les permis de construire en zone inondable ?
Alors écoutez, non, moi je pense que la reconstruction c'est vraiment un travail collectif. Je pense que c'est une responsabilisation de tous. Mmh. Et je suis heureux que vous ayez fait témoigner Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu. Je l'ai sollicité pour témoigner auprès de ses collègues élus. Parce que quand un maire partage son analyse, son expérience avec d'autres maires, c'est souvent plus efficace en termes de pédagogie que de longues paroles administratives. Oui. Je pense qu'on a une responsabilité collective. Et d'ailleurs, les maires, dans cette gestion de crise et dans l'appréhension de ces sujets, sont aujourd'hui très au fait de ce qu'il faut faire. On a aujourd'hui des plans de communaux de sauvegarde qui permettent de penser les actions en matière de gestion des risques lorsqu'il y a des événements naturels majeurs. On a aussi, et se mettent en place dans les villes, dans les villages, des réserves communales de sécurité qui sont constituées par des équipes, des volontaires qui assistent les agents municipaux dans la gestion des crises et des risques. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les maires ont un rôle absolument central. Ils sont au cœur de la gestion de crise et ils ont un atout, c'est qu'ils sont au plus près des populations. Ils ont une excellente connaissance du terrain, de leurs habitants. Et c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, ne peut pas tout porter. Cette pédagogie, elle doit être portée par l'ensemble de la population, des élus. Moi, je résumerai une chose, et c'est ce qu'ont dit tous vos intervenants. On ne reconstruira pas, notamment dans les vallées de la Vésubie, de la Tignée et de la Roya, on ne reconstruira pas contre l'eau, mais avec l'eau. Il faut aussi se garder des leurres. On a parfois, après un événement comme celui qu'a vécu les vallées des Alpes-Maritimes, la tentation de vouloir courir vers la protection absolue. Ça n'existe pas. Ouais. Il faut respecter aussi, savoir respecter les largeurs des lits, permettre aux rivières de dépenser leur énergie, de déposer leurs matériaux. Parce que en plus, dans ces vallées, vous savez, on est sous de multiples contraintes. On a la contrainte et les risques et les aléas liés au glissement de terrain, aux chutes de blocs, les inondations. Mais c'est surtout des crues torrentielles auxquelles on a affaire. Même des laves torrentielles avec la mobilisation de matériaux, de pierres, donc qui sont extrêmement violentes quand on a ces événements et quand on a en plus, rappelez-vous, 2 ou 3 octobre, on a eu jusqu'à 500 à 600 millimètres d'eau en 12 heures. C'est considérable. Et puis avec les phénomènes de pente, évidemment, le flux hydraulique est extrêmement violent.
Mais justement, Xavier Pelletier, je me souviens, on avait envoyé des équipes d'Europe 1 sur place. Les routes étaient coupées, les images étaient quand même très très fortes et sont restées gravées. Est-ce que ça pose des questions en termes d'infrastructure ? Ça veut dire qu'il faut envisager des routes moins exposées en mobilisant des techniques qui permettent par exemple d'avoir des ponts qui résistent à la force de l'eau. Est-ce qu'on repense finalement l'après avec les constructions, avec les infrastructures ?
Absolument. Vous évoquez les ponts, par exemple. Et évidemment, quand on va les reconstruire, on va mieux les positionner dans le flux hydraulique. Mmh. On va rallonger les tabliers. On va faire en sorte que l'ancrage soit effectivement plus fortifié, plus résilient, pour que si on a d'autres événements marqués, et tous vos intervenants l'ont dit, on en aura, que ces infrastructures résistent mieux. Les routes, c'est pareil. Il faut aussi bien comprendre les contextes qu'on a dans ces vallées, c'est-à-dire des vallées très encaissées. Donc, par endroit, on sera obligé de creuser des tunnels. On a de véritables problèmes pour faire passer les infrastructures. On a aussi aujourd'hui des matériaux plus résistants. On a parfois des routes qui sont anciennes, hein, avec du bitume classique. Aujourd'hui, on peut mobiliser des matériaux et des techniques de reconstruction qui permettent finalement d'avoir des infrastructures qui vont mieux résister aux flux hydrauliques.
Juste un dernier mot, Xavier Pelletier, sur place, quelques mois après, puisqu'on avait fait tout un suivi sur Europe 1 de ce qui s'était passé, bien sûr, dans la vallée de la Roya. La vie a pu reprendre. Comment ça se passe? Est-ce que tout refonctionne comme avant, entre guillemets?
Alors, vous avez dans la Haute-Roya toujours beaucoup de contraintes, des contraintes de circulation. Alors, vous savez que le 3 mai dernier, enfin, le train a pu rejoindre Tende en passant par la Brigue. Il était bloqué à Fontan. On avait un mur à arcatures qui avait tendance à s'enfoncer. Il a été sauvé. On a toujours l'unique route départementale, hein, qui permet d'accéder à la Haute-Roya, qui est en cours de réparation. Et c'est compliqué parce que comme c'est l'unique voie d'accès, il faut à la fois permettre quelques circulations. Donc c'est en convoi le matin, midi et le soir, mais aussi poursuivre les travaux. Donc les travaux se poursuivent, ça prend du temps. On essaye de tout faire pour que les populations, les habitants ne partent pas, pour que l'économie ne s'effondre pas. Vous savez, on a des écosystèmes extrêmement fragiles, donc c'est précaire. Il faut mettre toute l'énergie et être auprès des maires, c'est ce que j'essaye de faire. Et le président avait annoncé un engagement fort de l'État et on tient cette stratégie pour faire en sorte que cette reconstruction aille le plus vite possible avec les collectivités territoriales. Il ne faut pas l'oublier que ce sont les collectivités territoriales qui sont les maîtres d'ouvrage, donc l'État est en appui.
Et à travers vous, ce soir, on pense bien sûr à tous les habitants de la Roya qui peuvent nous écouter ou dans les Alpes-Maritimes. On ne vous oublie pas. On va terminer avec vous, Emma Aziza. Vous l'avez dit la semaine dernière sur notre antenne. Vous l'avez dit également ce soir. Vous disiez qu'il fallait finalement une réflexion profonde sur l'urbanisation, prendre en compte les nouveaux risques, notamment de ruissellement. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Ça veut dire qu'on ne les prend pas assez aujourd'hui en compte.
Je pense pas assez vite, il y a encore trop de freins. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que la prévention et l'anticipation coûtent toujours moins cher que le fait de réparer. Quand on a eu les crues de la Seine en juin 2016, ça a coûté, sur une semaine, ça a coûté plus d'1,3 milliard d'euros de dommages. Ouais. Donc ce milliard-là, si on arrive à le mettre sur vraiment des actions de prévention, alors en sachant que l'État français met déjà énormément d'argent sur la table dans des grands plans d'action sur le risque d'inondation partout en France. Maintenant, il faut plus de moyens, il faut aller plus vite. On est aussi dans une sorte de dichotomie entre souvent des choses qui sont mises en place localement, avec, je vais dire, deux bouts de bâton, on fait des petites choses comme ça, à l'ère de la big data, à l'ère de l'intelligence artificielle, au moment où notre smartphone est capable de nous géolocaliser, nous écouter à distance et de prendre la main sur tout. On n'est pas capable aujourd'hui d'aller vers ces technologies. Il va falloir amener cette puissance de l'innovation aussi en direction du sauvetage des populations. Il va falloir massifier vraiment de manière drastique partout cette adaptation des bâtiments, mais pas qu'au risque d'inondation, au risque de canicule. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir des sociétés qui peuvent vivre avec 46 degrés. On se rappelle des épreuves de brevet qui avaient été décalées. Nos hôpitaux sont pas prêts. On n'est pas capable non plus de gérer la sécheresse qui coûte plus cher que le risque d'inondation. Donc je crois vraiment que cette adaptation, elle doit être globale. Elle doit être sur tous ces extrêmes. Merci. Et il faut comprendre aujourd'hui que ça va devenir notre quotidien.
Merci infiniment Emma Aziza d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Emma Aziza, hydrologue, merci au préfet Xavier Pelletier. Grand merci au maire de Mandelieu, Anna Poul, Sébastien Leroy. C'était passionnant de vous écouter. Merci pour ce club des idées ce soir. Restez avec nous dans un instant, le jour où.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Le jour où, tous les soirs, vous savez, on s'arrête sur un événement du passé, une date, une histoire. Ce soir, Julien Bugier et Angèle Châtelier. On les écoute.
C'est hier. juillet, le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir Angèle. Bonsoir. Angèle Châtelier. On connaît la carrière des Beatles, oui. Parce qu'on va parler des Beatles et on va vous en raconter d'une certaine manière l'histoire secrète. Mais il y a un élément qu'on ne connaît pas, c'est au début des années 60, quand deux responsables d'un label ont refusé de les signer. Et oui.
Ce qu'on entend, c'est un extrait des bandes 2K, des bandes que les Beatles ont enregistrées pour les présenter au label du même nom. Au début des années 60, Brian Epstein, l'agent des Beatles, veut les faire signer sur ce label. Ils enregistrent 15 titres en une heure. C'est Pete Best à l'époque qui est à la batterie. Certaines chansons sont des compositions, d'autres des reprises. Brian Epstein a rendez-vous au label le 1er janvier 1962, sauf qu'ils ne veulent pas des Beatles. Le coupable principal s'appelle Dick Rowe. La légende veut qu'il ait dit à leur agent « Retournez à Liverpool, les groupes à guitare vont disparaître ». Il a préféré signer le groupe The Tremolos.
J'imagine qu'il a dû se faire virer après coup. Alors leur succès a été dérisoire par rapport évidemment à celui des Beatles. Alors depuis, Dick Rowe a un surnom.
Oui, son surnom c'est l'homme qui rejeta les Beatles, car ils sortent ensuite 8 albums sur le label parlophone avec Madonna, Elvis Presley et Michael Jackson. Les Beatles sont partis pourtant des artistes qui ont vendu plus de 335 millions d'albums dans le monde.
Pas mal, pas mal. Alors ce fameux Dick Rowe a dû s'en mordre les doigts de ne pas les signer.
Oui, mais la fin de l'histoire est plutôt attachante puisqu'un an après avoir dit non aux Beatles, il se retrouve aux côtés de George Harrison pour un concours. Tous les deux sont jurés. George Harrison lui dit alors qu'il devrait aller voir un jeune groupe, en jeter une oreille. Et bien c'était les Rolling Stones qu'il finit par signer. Et ironie du sort, leur première chanson à succès s'appelle « I Wanna Be Your Man » écrite par John Lennon et Paul McCartney. Finalement, la boucle était bouclée. « I wanna be your man »
« I wanna be your man
yeah. ».
Yeah. Merci Angèle Châtelier, merci. Pour ces archives.
Europe Soir, le 18-20.
Allez.
Thierry Dagiral.
Après 20h, la musique justement, vous avez rendez-vous avec Émilie Mazoyer. Merci à Naïma Benchemann, Victor Chabert, Harold De Caron, Christophe Pierrot qui m'ont aidé à préparer ce 18-20. On se retrouve bien sûr demain. Belle soirée à tous.